Chapitre 2. Lisa s'adosse à la fenêtre et pose son verre à cocktail embué sur le rebord. Il fait nuit et elle est à Rimbaud, dans cette villa de plein pied, en compagnie de deux hommes. L'un d'eux a la cinquantaine. Il est vêtu d'un costume et d'une chemise bleu clair. Ses cheveux sont courts, ses tempes grisonnantes et il a le cou un peu raide. Il jette un bac à glaçons vide dans l'évier, verse du gin dans un shaker, puis ajoute du tonique. L'autre homme doit avoir un peu plus de 20 ans. Il est grand, le crâne rasé et large d'épaules. Les paumes de ses mains sont blanches et il fume sous la hotte de la cuisine. Lisa prononce quelques mots, puis se couvre la bouche pour étouffer un rire. L'homme plus âgé quitte la cuisine et, quelques secondes plus tard, la lumière de la salle de bain s'allume. De l'extérieur, on aperçoit son ombre à travers les fins rideaux. Lisa vient d'avoir 29 ans. Elle est vêtue d'une jupe plissée et d'un chemisier gris argenté qui lui moule la poitrine. Ses cheveux bruns étincellent sous la lumière. Elle est née avec un bec de lièvre et en garde une cicatrice blanche sur la lèvre supérieure. Le jeune homme jette son mégot dans une canette de bière, s'approche de Lisa et lui montre l'écran de son portable. Il l'observe, sourit, puis, en lui parlant, écarte une mèche de cheveux qui tombe sur sa joue. Elle lève les yeux vers lui et, sur la pointe des pieds, lui donne un rapide baiser sur la bouche. Après avoir regardé vers le couloir, il se penche et l'embrasse, cette fois avec fougue. Saga Bauer les observe à travers l'écran de sa caméra. La main du jeune homme remonte sous la jupe de Lisa et caresse son sexe. Il est tard et le quartier, occupé principalement par des résidences secondaires, est calme. Depuis 1 heure, Saga est perchée sur la brouette du voisin qu'elle a posée à l'envers près de la haute clôture. De là, elle a une vue imprenable sur la villa et sa grande baie vitrée qui ouvre sur un petit jardin à l'arrière. La lumière de la cuisine et du salon éclaire les troncs droits des pins et les pommes de pin qui parsèment l'herbe sèche. L'homme plus âgé réapparaît et s'immobilise dans l'embrasure de la porte. Les deux autres cessent de s'embrasser et s'approchent de lui. Saga laisse reposer le téléobjectif sur le sommet de la clôture pour stabiliser son image. Mais les trois individus se sont déjà déplacés vers l'entrée. Le mari de Lisa la soupçonne de le tromper lorsqu'il est d'équipe de nuit. Lui et Saga étaient dans la même promotion à l'École nationale supérieure de police. Peu de temps après, il est entré au commissariat de Norrmalm. Pour recueillir des preuves de l'infidélité, il s'est adressé à l'agence de détectives qui emploie Saga. Lors de leur première entrevue, elle l'a mis en garde. La vérité n'est pas toujours bonne à connaître. Mais il a choisi. Il l'a engagée. Lisa se tient maintenant avec les deux hommes devant la porte de la chambre plongée dans l'obscurité. Il est impossible de distinguer leurs gestes, mais leurs ombres se déplacent sur les moulures. Saga vérifie son objectif. L'écran est noir. Jusqu'à ce que l'un des deux hommes allume une lampe sur la table de chevet. Tous les trois sont à demi nus. Lisa, dos à la fenêtre, ôte sa culotte et se gratte la fesse droite. L'élastique de son collant lui a fait des marques autour de la taille et elle a des bleus sur un mollet. Les murs de la chambre sont couleur miel et le grand lit est surmonté d'une tête en fer forgé. La lumière se reflète dans le verre d'un cadre qui représente le boxeur George Foreman. Le jeune homme s'assied sur le bord du lit. Son corps fait écran à la lampe. L'autre s'allonge et attrape un préservatif dans le tiroir supérieur de la table de chevet. Lisa s'approche de lui et s'installe à califourchon sur ses jambes en attendant qu'il soit prêt. Elle lui dit quelque chose. Et il attrape un coussin jaune qu'il place sous ses fesses. Lisa se penche et lui embrasse le torse et la bouche. Juste avant que l'homme ne la pénètre, son visage disparaît à nouveau dans l'obscurité. Le plus jeune est toujours assis sur le bord du lit, attendant d'être suffisamment dur pour pouvoir enfiler son préservatif. Les mouvements rapides du coït se propagent jusqu'à la lampe dont la frange dorée se met à trembler sur l'écran. Saga attend que le visage de Lisa soit à nouveau visible. Tant qu'elle n'est pas clairement identifiée pendant le rapport sexuel, elle peut toujours nier son infidélité. Elle pourrait prétendre avoir eu des remords après avoir embrassé cet homme et avoir quitté la maison au moment où une autre femme arrivait. Derrière Saga, une lumière s'allume dans la maison. Lisa s'arrête, pose une main sur l'épaule du jeune homme et lui dit quelque chose. Il tend aussitôt son bras pour attraper une bouteille d'huile posée sur l'autre chevet. Toujours à califourchon sur les hanches de l'homme plus âgé, elle se penche en avant tandis que le plus jeune s'agenouille derrière elle. Les cuisses de Lisa frémissent de douleur lorsqu'il la pénètre. Les trois partenaires restent immobiles un instant. Puis les deux hommes commencent progressivement à se mouvoir. La lumière est encore trop mauvaise. Saga entend quelqu'un marcher sur la pelouse derrière elle. Devinant que c'est le voisin qui l'a découverte, elle jette un œil rapide par-dessus son épaule. « Vous êtes dans un jardin privé !» dit-il. « Vous ne pouvez pas... »« Je suis de la police !» l'interrompt-elle en le regardant. « Gardez vos distances !» L'homme, vêtu d'un gilet de chasseur, s'approche d'un air anxieux. « Puis-je voir votre insigne ?»« Un instant !» répond Saga en regardant à nouveau dans l'objectif. Les trois amants sont maintenant à contre-jour, la lumière du chevet éclaire la fenêtre poussiéreuse. De temps à autre, le visage du plus jeune est visible de profil. Son nez, ses lèvres serrées. Elle distingue également les fragments d'un corps en sueur qui brille dans la lumière, des fesses en mouvement, un cou, les muscles d'une cuisse tendue. « J'appelle la police !» prévient le voisin. L'un des deux hommes heurte accidentellement la table de chevet et renverse la lampe qui atterrit sur le fauteuil. Soudain, le visage de Lisa est en pleine lumière. Sa bouche est ouverte et ses joues sont rouges. Ses seins blancs frémissent et ses cheveux lui balaient le visage. Elle semble dire quelque chose avant de fermer les yeux. Saga filme encore quelques instants avant d'arrêter l'enregistrement. Puis elle met le cache de l'objectif et descend de la brouette. Le voisin s'est éloigné, son portable à l'oreille. Au moment où un agent lui répond, elle arrive près de lui et lui montre son insigne de la CEPO, qui en réalité n'est plus valide. Puis elle traverse la pelouse d'un pas vif, escalade la clôture et prend le chemin qui mène au ponton de baignade. Sa moto est garée sur le parking près des poubelles. Après avoir rangé son appareil photo dans son sac à dos, elle appelle son chef, le regard rivé sur les rochers plats et l'eau sombre. « Henri Kent, » répond-il. « Désolé d'appeler si tard, mais tu voulais que je te fasse un rapport. »« C'est le but, oui, » l'interrompt-il. « Ok, bon, je viens de terminer et j'ai tout filmé. »« Bien. » Les cheveux blonds de Saga sont rassemblés en une longue queue de cheval. Malgré les cernes sous ses yeux et la ride verticale qui se creuse entre ses sourcils, elle reste d'une beauté stupéfiante. « Il est tard. Est-ce que je peux rapporter la caméra au bureau demain matin ?» Non, tu viens maintenant. C'est juste que je dois me lever tôt et... Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? L'interrompt-il d'une voix stridente. Rien, mais je... Elle se tait lorsqu'elle comprend qu'il a raccroché. Avec un soupir, elle fourre son portable dans la poche intérieure de sa veste, remonte la fermeture éclair, enfile son casque et enfourche sa moto. À la sortie du parking, elle emprunte la route déserte bordée de résidences secondaires. Après son long congé maladie, Saga a choisi de ne pas réintégrer la CEPO. Elle a préféré candidater à la NOA. Bien qu'il n'y ait pas de poste vacant, le responsable du personnel s'est montré intéressé par ses compétences et a promis de parler d'elle à la direction. Mais même si Saga se sent tout à fait prête à reprendre le travail, elle a besoin du feu vert de la psychologue du centre de crise et de traumatologie. En attendant... Elle continue ses missions pour l'agence de détective Kent sur des cas d'infidélité et des vérifications d'antécédents. À côté, elle consacre une grande partie de son temps libre à l'accompagnement de deux enfants atteints de trisomie. Saga vit seule. Depuis 3 ans, elle a une liaison avec l'anesthésiste qui s'est occupé de sa demi-sœur à l'hôpital Karolinska de Huddinge. Il est 3h30 du matin lorsqu'elle gare sa moto devant l'agence, sur la Norra Stationsgatan. Elle compose le code d'entrée, prend l'ascenseur jusqu'au troisième étage, déverrouille la porte et désactive l'alarme. En jetant un regard machinal sur le bac à courrier en plastique situé dans l'entrée, elle remarque un petit paquet à son nom. Elle s'en saisit, le dépose sur son bureau et s'installe devant son ordinateur. Après s'être connectée, elle sort la carte mémoire de la caméra, l'insère dans le lecteur, transfère le film et l'archive. Puis elle tourne la tête vers la fenêtre et fixe d'un regard vide la circulation nocturne de Northoul, les routes, les ponts et les entrées illuminées des tunnels. Elle est épuisée. Elle est tirée de ses pensées par le bourdonnement du disque dur de l'ordinateur. Elle se lève, va ranger la caméra dans le coffre-fort, puis retourne s'asseoir. Les yeux rouges à cause du manque de sommeil. Elle arrache le scotch marron qui enveloppe le paquet qu'elle tient sous la lampe de son bureau, y fourre sa main et en sort un dessin d'enfant froissé. En le dépliant sur son bureau, elle découvre à l'intérieur une petite pochette en tissu ornée de dentelles. Elle l'ouvre délicatement avec la pointe de son crayon et en sort un objet gris. C'est une figurine en étain d'environ 2 cm de haut. La lumière se reflète sur le métal gris-argent. Elle oriente sa lampe pour mieux l'observer. C'est un homme avec une longue barbe et un manteau aux épaules étroites.